Le sermon d'aujourd'hui va être sur le texte de Matthieu 25, la fin du chapitre 25. Est-ce que ça va le...
Tout va bien.
Comment serons-nous jugés? Comment est-ce que nous serons jugés dans notre vie? Qu'est-ce qui va être... Comment on va être évalué? Prenons un temps de prière. Seigneur Jésus, afin de bien marcher, nous avons à savoir comment nous serons évalués, comment tu évalueras, Seigneur, notre vie. Qu'est-ce que tu attends de nous? Donne-nous de bien écouter ce que tu veux nous dire à travers ce texte, afin qu'ensemble nous puissions nous réjouir qu'en tant que petite communauté, nous faisons ce que tu nous demandes et nous nous réjouissions en toi, Seigneur, de te rencontrer un jour et d'être du côté de ces brebis que tu accueilleras. En ton nom je prie, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Comment serons-nous jugés? C'est une question importante parce que dans ce monde, en général, on n'est pas trop jugé. Sauf si on a fait des choses que l'État considère comme illégales. Mais nous, par contre, on aime bien juger les autres. On aime bien évaluer et on aime bien dire qui a fait quelque chose de bien et qui a fait quelque chose de pas bien. Est-ce que le nom Julian Assange, ça vous dit quelque chose? Est-ce que quelqu'un a déjà entendu ce nom? Julian Assange. Est-ce que quelqu'un a entendu le mot Wikileaks ces dernières semaines? Qui a entendu parler? Vous pouvez lever la main? T'as entendu Anise aussi, non? Wikileaks, Julian Assange.
Ah oui, oui, il y a un Australien.
Voilà, c'est un Australien qui est l'auteur du site, si vous voulez, ou du concept qui s'appelle Wikileaks. Ouais. Le but de ce site, c'est finalement de pouvoir révéler les secrets que des personnes leur transmettront. Ils ont toute une structure où ils ne prennent pas... Ils disent, c'est pas nous qui révélons. Quiconque le désire peut envoyer des informations dans ce site, dans cet ensemble de sites, protégés par des lois internationales en Suède, en Islande, etc. Et quand vous envoyez des informations, nous, on les transmet. Donc, ils ne prennent pas responsabilité par rapport aux informations. Ils disent juste, nous, on les transmet. Quel est le but d'un système comme cela? C'est un peu comme la presse qui se veut être libre. La presse, qu'est-ce qu'elle va dire? Elle va dire, nous on veut révéler toutes les choses qui ne sont pas dites.
Oui.
Et donc, on pourrait avoir une impression que derrière ça, le plus grand problème de ce monde, c'est que les choses ne sont pas sues. Si on met à la lumière toutes les choses, les problèmes vont disparaître. Il y a un seul petit souci là-dedans. C'est que est-ce que de mettre à la lumière toutes les choses va régler tous les problèmes? Est-ce que de dire, par exemple en Afghanistan, qui sont les personnes qui ont aidé à éviter des massacres de prendre place, si on révèle leur nom, est-ce que ça va aider? Ça a été un des grands problèmes qui sont en train de se poser, et dans les prochaines semaines, il va y avoir une des questions qui se pose. Est-ce que c'est sage? Est-ce que c'est un juste jugement de tout révéler? 250 000 informations entre les différentes ambassades ont été révélées cette semaine. Ce monsieur, Julian Assange, a dit « Faites attention, bientôt je vais vous révéler, au début de l'année prochaine, des choses qu'une grande banque américaine a faites. » Et il va révéler des secrets sur une grande banque américaine. Et juste après qu'il ait dit ça, il y a une banque américaine, Bank of America, en bourse, qui est descendue, qui a perdu beaucoup de points, qui a perdu des centaines de millions de dollars, probablement, parce que ils se sont dit, c'est peut-être cette banque, et on va révéler des choses, et ça va mal se passer. Après, elle s'est rétablie plus ou moins. Les révélations peuvent avoir des impacts monstrueux. Est-ce que c'est juste ce que ce monsieur fait, ou pas juste? Je ne sais pas. C'est très difficile à dire. Il y en a qui peuvent dire, vous savez, il a révélé le nom de collaborateurs. Par exemple, il y avait le premier ministre du Liban qui était en Iran. Et le jour où ces Wikileaks se sont révélés, on révèle que le premier ministre du Liban avait parlé mal en disant aux Américains, il faut que vous vous occupiez de l'Iran. Vous imaginez, vous êtes en Iran et on apprend en Iran que vous avez dit qu'il fallait que le président de ce gouvernement soit tué ou éliminé. Comment vous vous sentiriez ? À l'aise ?
Pas du tout.
Tranquille ? En sécurité ? Bon, c'est un petit peu ce qu'on voit au niveau des nouvelles, c'est pour ça que ça fait la une des journaux ces derniers temps, dans le monde entier, hein. Que ce soit en Allemagne, aux États-Unis, en France. Ces questions-là sont en train de secouer parce que, est-ce que c'est juste de tout révéler ? Et les gouvernements ont toujours dit, on peut révéler jusqu'à un certain point. Il y a des choses qu'il ne faut pas révéler. Parce que, de fait, il y a des choses qui, révélées aux mauvaises personnes, peuvent amener des choses graves. Si quelqu'un méchant connaît tout, il pourra faire ce qu'il veut de méchant. Par exemple, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait Hitler qui a voulu tout savoir sur les origines raciales, ethniques et religieuses de chaque personne. Une fois qu'il a eu la base de données, qui est à l'origine d'ailleurs de l'informatique, une des origines de l'informatique moderne avec des cartes perforées, qu'est-ce qu'il a fait avec ses connaissances ? Il a regroupé toutes les personnes qui ne lui plaisaient pas pour les détruire. La connaissance n'est pas toujours une bonne chose. Et cette question est au cœur de ce débat que vous allez encore entendre pendant les prochaines semaines, et je ne serai pas surpris qu'au début de l'année prochaine, ce monsieur Assange, à travers Wikileaks, quand il fait des menaces, en général, il a des choses pour soutenir. Donc, probablement, on va voir encore des choses dans les nouvelles par rapport à ça, et les gouvernements auront à décider. Les États-Unis sont en train de décider, est-ce qu'on autorise ça, ou est-ce qu'on doit mettre hors la loi cette structure, parce qu'elle peut faire des dégâts. Et c'est une bonne question. Comment serons-nous jugés ? Qui va évaluer toutes nos actions ? Est-ce que ça va être un dictateur qui va regarder tout ce qu'on a fait et qui va nous emmener en prison ? Qui va nous juger ? Quels vont être les critères utilisés ? C'est la question de ce texte qui nous est posée, qui va bien au-delà de ce monde, bien au-delà des questions que ce monde se pose, pour regarder finalement quels sont les critères que Dieu va utiliser. Et j'aimerais lire avec vous les premiers versets. D'abord, on va... Alors Alexandre, tu vas passer l'image suivante. Vous vous rappelez qu'on a eu alors Jésus qui s'est lamenté sur Jérusalem au chapitre 23. Ensuite, on a eu un discours qui parle de la destruction de Jérusalem et de la fin des temps. Et la semaine dernière, on a vu deux illustrations sur comment attendre ? D'abord, prendre conscience que ça viendra à un moment qu'on n'attend pas. Donc il faut qu'on soit toujours prêt. Ensuite, on a vu la parabole des talents que Dominique vous a présentée la semaine dernière par rapport au fait que il y a des choses à faire pendant ce temps entre aujourd'hui et le temps où Jésus reviendra. Et aujourd'hui, on va voir avec la parabole des brebis et des boucs la question, qu'est-ce qui va être la clé de l'évaluation ? Quand Jésus reviendra, qu'est-ce qu'il va regarder ? Est-ce qu'il va regarder si j'ai payé mes impôts toutes les années ? Est-ce qu'il va regarder comment je me suis comporté avec telle personne ? Qu'est-ce que Jésus va regarder ? Et c'est ce que nous allons voir maintenant, alors que nous nous préparons, c'est le dernier discours de Jésus avant la fin de son ministère. Ensuite, il va être oint à Béthanie, il y aura la Sainte Cène. Pierre va renier Jésus, son reniement va être prédit d'abord. Jésus va prier à Gethsémani, puis ensuite il sera arrêté devant le grand prêtre. Pierre le reniera et ça sera la fin. Alexandre, est-ce que tu peux passer à l'image suivante ? Avant de lire le texte d'aujourd'hui, j'aimerais que nous regardions ensemble un texte de Daniel très important. Jésus, quand il parlait de lui-même, comment il se présentait ? Il disait, est-ce qu'il disait « Je suis le roi d'Israël » ? Non. Est-ce qu'il disait « Je vais venir dominer en Israël et être écrasé Rome » ? Non. Il disait « Le Fils de l'homme va venir ». Quand il parlait de lui-même, il disait « Le Fils de l'homme ». Parce que le Fils de l'homme, finalement, fait appel à une prophétie. Le Fils de l'homme fait partie à une prophétie et dans Ézéchiel et dans Daniel. J'aimerais vous lire deux versets dans Daniel et Vous verrez, c'est la prophétie la plus connue sur le Fils de l'homme. Daniel, chapitre... Pardon, c'est pas chapitre 2, c'est chapitre 7, c'est une erreur sur la feuille. Daniel, chapitre 7, versets 13 à 14. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux, arrive à quelqu'un de semblable à un Fils de l'homme. Il s'avança vers l'Ancien des Jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes les langues le serviront. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Ce Fils de l'homme, qu'est-ce qu'on apprend dans ce texte? Qu'est-ce que vous voyez dans ce texte? Il va venir d'où? Il va venir du ciel. Il arrivera sur les nuées des cieux. Il s'avancera vers l'Ancien des Jours. Alors l'Ancien des Jours, qui ça peut être à votre avis?
Dieu le Père.
Probablement Dieu le Père céleste. Et on lui donnera domination, gloire et règne. Domination, gloire et règne. Et toutes les nations, les peuples et les hommes de toutes les langues le servirent. Ça veut dire les chrétiens, les non-chrétiens, tous les êtres humains dans ce... qui ont été créés, tous ceux qui seront là, seront soumis à lui. Ce sera lui qui sera autorité sur toutes les nations. Jésus, quand il est venu, il a bien dit « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Pierre, tu as une feuille? D'accord. « Mon royaume n'est pas de ce monde. Mon royaume est au-delà. » Mais il va venir ce royaume. Ce royaume est plus important que le royaume dans ce monde. Les Romains, est-ce que l'Empire romain existe toujours aujourd'hui? Des effets existent, mais l'Empire, il n'existe plus. Est-ce que l'Empire des Chinois Ming existe encore aujourd'hui? Non. Est-ce que l'Empire britannique existe encore aujourd'hui? Pas beaucoup. L'Empire implicite des États-Unis, un petit peu, mais il est en train de disparaître. Est-ce que l'Empire chinois, ou l'impérialisme chinois qui va apparaître dans le prochain siècle, peut-être? Ou de l'Inde peut-être encore, qui sont les grandes puissances économiques que nous avons dans le monde aujourd'hui, va durer longtemps. Peut-être que ça durera 10 ans, peut-être 200 ans, mais ça passera. Et de fait, toutes ces puissances vont passer, mais le règne de Jésus ne passera pas. Et lui va évaluer toutes les nations et toutes les générations. J'aimerais vous lire maintenant les versets 31 à 33 d'abord. Alexandre, tu peux nous passer au l'image suivante. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui, il les séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs, et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Versets 34 à 36. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. » On voit d'abord que le Fils de l'homme... Jésus n'a jamais dit pendant son ministère qu'il était roi, mais d'abord, quand les mages sont arrivés, ils ont dit « Où est le roi né pour Israël ?» Et là, le roi Hérode a été très effrayé et très secoué et a voulu tuer ce futur roi pour lui rester roi et ne pas être remis en question. Mais il n'a pas pu. Personne n'a pu détruire ce roi qui allait venir, qui était Jésus. Ensuite, on a eu différentes discussions et jusqu'à la fin, vous allez voir dans les prochains chapitres, les derniers chapitres de l'évangile de Matthieu, Jésus va être condamné en partie parce qu'il a dit être roi. Pour qu'il soit condamné par César, les autorités juives vont dire il a prétendu être roi. Et qu'est-ce que nous aurons sur la pancarte au-dessus de la tête de Jésus comme moquerie? Jésus, le roi des Juifs. En trois langues, on apprend cela dans l'évangile de Jean. Sur la croix. Jésus sera roi. Et là, il est en train de parler clairement que ce sera lui, le Fils de l'homme, qui sera roi. Et ce qu'il nous révèle, c'est les points clés. D'abord, pour être, il dit, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé avant-hier, qui vous a été préparé après que je sois monté aux cieux, qui vous a été préparé après ma mort, qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Depuis toujours, Dieu a préparé une place. Et Jésus continuera. Quand il montera au ciel, dans l'évangile de Jean chapitre 14, Jésus dira « Je m'en vais auprès du Père et je vais vous préparer une place pour vous. » Ça, ça va être les brebis. Alors, brebis et les boucs, c'est juste pour dire qu'il va y avoir une séparation entre deux types de personnes. Ça sera fait par un berger. Le berger, lui, il s'occupait que des brebis. Et les boucs, il va les rejeter. Il amènera les brebis auprès du Père et les boucs seront écartés, comme nous allons voir plus tard. Quelles vont être les clés? Les clés, ça va être des gestes d'amour. Jésus dit, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez recueilli, j'étais nu et vous m'avez vêtu, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venu vers moi. Des gestes d'attention envers Jésus. Alors là, on a un problème. Jésus n'est plus là, comment est-ce qu'on va montrer de l'amour envers Jésus? Comment ça va se faire cela? Alexandre, tu peux passer à la page suivante? Et les justes vont être surpris parce qu'ils vont se dire « Oh là, Jésus, on t'a jamais vu? Dans ce monde, on ne sait pas comment ça s'est passé. » Les justes lui répondront « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli? Ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. À l'un de ces petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Quand Paul était sur la route de Damas, il vit une grande vision. Il vit quelqu'un qui était Jésus, qui lui a posé la question « Pourquoi me persécutes-tu ?» Paul n'avait jamais persécuté cette personne, donc il lui dit « Qui es-tu, Seigneur ?» Il lui dit « Je suis Jésus que tu persécutes. » Et ensuite, Paul a compris que quand il persécutait les chrétiens, il persécutait qui ? Jésus. Quand il persécutait des disciples de Jésus, il touchait Jésus directement. Jésus a dit à l'Église, et Paul enseignera aussi, que nous sommes son corps. Nous sommes le corps de Christ. Nous accueillons le corps de Jésus par la Sainte Cène. Nous entrons et nous faisons partie du corps de Jésus. Donc quand nous entrons par la foi en relation avec Jésus, nous faisons partie de lui. Et quand quelqu'un vous fait du mal, il fait du mal à qui? À Jésus. Alors n'allez pas voir les autorités de l'île en disant « Donnez-moi mon prêt parce que si vous ne me le donnez pas, c'est à Jésus que vous ne le donnez pas. Hein, » ça ne va peut-être pas marcher. Je ne sais pas, vous pouvez essayer, mais je ne pense pas que ce sera très convaincant. Mais soyez conscients que, surtout si vous êtes humble, que vous ne faites pas cela de manière orgueilleuse, mais que vous suivez Jésus avec humilité, vous faites partie des frères et des sœurs de Jésus. Quand Jésus, sa mère et ses frères étaient arrivés, c'était en Matthieu chapitre 12, il y avait la maman et les frères de Jésus qui disaient « Dites à Jésus qu'on veut le voir !» Il y a des gens qui transmettent cette information parce qu'il y a beaucoup de monde autour de Jésus. Jésus regarde autour de lui et il dit « Qui sont ma mère et qui sont mes frères ?» Et ensuite il dit « Toute personne qui fait la volonté de Dieu, de mon Père, celui-là ou celle-là est mon frère ou ma sœur ou ma mère. » Parce que nous sommes appelés à faire la volonté de Dieu. Comment résumer la volonté de Dieu? C'est aimer Dieu et aimer notre prochain. Et notre premier prochain, c'est celui qui est proche. Ça va être nos familles, ça va être les personnes croyantes. Et vous allez avoir, nous allons avoir toujours plus à prendre conscience de la famille de Jésus. L'église, est-ce que ça se limite à notre petite église où on est les vrais croyants et puis l'autre église, là, de l'autre côté de la rue, c'est des faux croyants?
Non.
On peut avoir des différences. Mais s'ils prient Jésus-Christ, s'ils invoquent Jésus comme Seigneur, désolé, ils font partie de l'église. Et nous avons à les aimer. Une des raisons pour lesquelles nous avons à faire très attention à ne pas faire la guerre entre chrétiens. À être en désaccord, des fois, oui. Mais jamais au point d'en venir à une dureté, une méchanceté. Parce que Jésus, comment il nous évaluera? À notre attitude envers les plus petits de ses frères que nous rencontrerons. Des fois, ce sera dans notre église, dans notre petite église. Des fois, ce sera ailleurs. Mais ce sera la référence d'évaluation. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas aimer les gens qui ne sont pas chrétiens? On leur demande, bonjour monsieur, bonjour madame, vous êtes chrétien? Non? Fichez le camp. Non. On est appelé à aimer toute la création. Mais l'évaluation clé, ça va être comment on aura aimé ceux qui sont avec Jésus. Et ça, ça va être une question pratique. Comment on va les soutenir? Comment on va les aider? On a pris, il y a de cela près d'un mois, une offrande pour la mission. Ça sert à quoi la mission? Ça sert à annoncer l'évangile, ça sert à aider d'autres églises dans d'autres pays. C'est directement lié. Soutenir la mission, c'est directement lié. Et je dirais, par conséquent, vous faites partie de cette direction-là, dans ce type de soutien. Et c'est une des façons de montrer son amour pour les autres. On ne va pas être évalué dans notre vie au nombre d'heures qu'on aura passé à prier. On sera évalué à travers nos actions. Le danger, c'est de dire, bon ben finalement, on n'a pas besoin de prier. On a besoin juste de faire des actions. On va aller dehors, on va faire des actions sociales, on va devenir une nouvelle ONG, et on est bon. Attention. Aimer, c'est aimer les petits, les frères de Jésus. Donc c'est aimer dans la foi, c'est aimer en soutenant aussi, en donnant de l'espoir, en venant visiter, en aidant, mais sinon on n'a pas de mots d'espoir. Et d'où viendront ces mots d'espoir? De la parole de Dieu, de la prière, de notre relation avec Dieu. C'est là où nous trouverons cette force. Et j'aimerais que nous regardions maintenant qu'est-ce qui va se passer pour les autres. Là d'abord, on voit qu'ils ont été surpris, les gens. Ils n'étaient pas sûrs d'être sauvés ou d'avoir fait ça. Quand ils ont vu, quand Jésus, le Fils de l'homme, leur a dit, venez les bénis de mon Père, vous m'avez aimé, les personnes ont été surprises. Ils ont dit, quand est-ce qu'on a fait ça? Et Jésus a dû leur expliquer. De même, nous allons voir qu'il y a un autre groupe qui est surpris. Alexandre, tu peux passer à la page suivante. Versets 41 à 45. Ensuite, il dira à ceux qui sont à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim ou ayant soif ou étranger ou nu ou malade ou en prison et ne t'avons-nous pas assisté? Et il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. La surprise sera dans les deux sens. Certains seront convaincus qu'ils sont avec Jésus, ils ne seront pas... Et ensuite, Jésus leur dira, loin de moi, vous n'avez pas pris soin. Et ce critère, ce sera l'amour pour les frères et les sœurs en Christ, qui sera la référence. Ils seront envoyés dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. D'un côté, on a eu les justes qui sont venus dans le royaume, qui a été préparé quand?
À la
fondation du monde. Pour eux. Quelque chose que Dieu a préparé pour eux. Mais pour ceux qui ont été loin de Jésus, il n'y a rien eu de préparé. Dieu a préparé quelque chose pour ses élus. Il n'a pas préparé de faire du mal aux méchants. Il n'a préparé que le bon. Mais ceux qui ont été opposés à Dieu, ceux qui n'ont pas aimé leur prochain, qui n'ont pas aimé leurs frères et sœurs dans la foi, eh bien eux iront au feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges, pour ceux qui rejettent Dieu, qui rejettent ses enseignements, qui rejettent sa volonté. Feu éternel, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que les anges et le diable brûleront éternellement et que nous on brûlera tout le temps? Donc Dieu il prendra plaisir à ce qu'on ait des douleurs pendant très longtemps? Pas évident, le feu c'est quelque chose qui détruit aussi. Donc peut-être que c'est une façon de dire qu'on va être annihilé, qu'on va être détruit complètement et pour l'éternité. Est-ce que c'est une éternité de souffrance ou une éternité où on n'aurait plus rien à faire? On peut argumenter, ça a été un des débats des dernières années parmi les théologiens, de dire, bon ben, comment ça se passera pour ceux qui seront rejetés? Les deux positions sont défendables bibliquement, de dire que ça sera éternellement en enfer ou qu'ils seront annihilés. C'est pas le centre de la parabole. C'est pas le centre de l'histoire que Jésus présente. Le centre de cette histoire, c'est comment on va être évalué? Comment serons-nous jugés? Est-ce que pendant cette semaine, nous avons pu penser à montrer de l'amour pour un frère ou une sœur dans la foi? À soutenir, à dire un mot d'encouragement, à essayer de montrer de la grâce envers quelqu'un d'autre? Et j'aimerais qu'on finisse par le verset 46. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, ceux qui n'ont pas montré de l'amour à un des petits des frères de Jésus et des sœurs de Jésus. Mais les justes à la vie éternelle. De quel côté est-ce que vous et moi serons? De quel côté est-ce que nous serons? C'est la question fondamentale de ce texte. Nous avons à veiller, nous préparer pour que, quand Jésus viendra, comment est-ce que nous serons prêts? C'est à la mesure de notre amour que nous serons mesurés. On peut dire qu'on aime Jésus, mais ne pas prendre soin de notre prochain. Et ça ne sera pas suffisant. On peut avoir notre petit temps de dévotion personnelle, et ensuite dire du mal. Ça ne sera pas suffisant. Ou bien ne pas dire du mal, mais simplement se dire, Seigneur, je te remets ces personnes, moi je fais rien. Ça ne sera pas suffisant. Si nous sommes sauvés par la foi, si nous sommes passer de la mort à la vie, cela aura un impact. Et j'aimerais vous demander pendant cette semaine qui vient, comment vous allez vous entraîner à aimer votre prochain? Comment vous allez vous entraîner à aimer ses frères et sœurs dans la foi? Je vous invite à réfléchir, à méditer pendant la minute qui vient. Qu'est-ce que j'ai fait pendant cette semaine? Est-ce qu'il y a des personnes que j'aurais pu aider, que je n'ai pas aidé, en particulier des personnes qui ont la foi? Est-ce qu'il y a des personnes dans la semaine qui vient que je pourrais aider? Comment? En les visitant, en priant pour eux, en discutant avec eux, comment est-ce que je vais pouvoir manifester cet amour envers eux? Ça peut être dans nos familles, ça peut être en dehors de nos familles, dans la famille de la foi. Et vous pouvez aussi manifester de l'amour à des personnes qui ne sont pas chrétiennes. C'est aussi une des choses que le Seigneur nous appelle à faire. Mais si vous n'avez pas appris à le faire avec ceux dans la foi, il y a peu de chances que vous le ferez pour des gens qui sont éloignés. C'est tout le problème des ONG. Nous avons du mal à montrer de l'amour aux personnes proches. ONG, c'est organisation non gouvernementale. Le problème des ONG, c'est aujourd'hui on est coupable. On est coupable parce que on sait qu'on fait partie, dans les pays développés, de ceux qui utilisent 80% des ressources de ce monde, et nous ne sommes que 20% des personnes. Donc on utilise beaucoup plus que les autres. Et comme on est un petit peu coupable, c'est répandu dans tout l'Occident. On a trouvé une technique, c'est les ONG. Alors les ONG, c'est bien parce que finalement, on donne de l'argent à une organisation qui nous dit ou on va rééquilibrer, vous donner cet argent, puis les 80% qui utilisent moins de ressources, eux, on va leur donner. Vous savez ce qui se passe la plupart du temps dans les ONG ? Les ONG vont acheter des voitures. Les ONG vont construire des choses pour eux pour pouvoir fonctionner. Mais leur capacité à aider les personnes pauvres sera très limitée. Soit ça sera directement des structures qui ne transmettront pas l'argent, soit peu sera transmis. C'est très complexe. Et donc, finalement, vous aiderez un petit peu avec des ONG, des organisations non gouvernementales. Mais rien ne remplacera jamais l'aide directe que vous ferez à travers les personnes que vous connaissez. À chaque fois que vous voulez dire « j'aide à travers une structure » à la place d'aider moi personnellement directement en disant « bonjour à mon voisin », en allant près des personnes que l'on peut aider, vous êtes en train finalement d'imaginer que ça va pouvoir remplacer. Rien ne remplacera vos marques d'amour auprès de ceux qui vous sont proches. Rien ne remplacera. Jésus ne dit pas ici finalement qu'on va pouvoir remplacer. Il faut qu'on ait des canaux. Alors, bien sûr que ça peut aider. Par exemple, quand on aide pour la mission, vous allez aider des personnes qui vont aider d'autres personnes. Organisations non gouvernementales aussi, dans une certaine mesure, feront ça. Mais ça ne remplacera jamais les marques d'amour que Dieu vous demande de montrer dans votre vie de tous les jours. Alors que nous finissons ce sermon, j'aimerais vous poser la question. Quelles sont les marques d'amour envers un de ces petits des frères et sœurs de Jésus que vous avez marqués pendant cette semaine ? Et quelles sont les marques d'amour que le Seigneur vous invite à montrer afin que vous soyez avec ces bénis du Père et que vous puissiez vous réjouir quand Jésus reviendra d'être du bon côté ? C'est la question que le Seigneur nous pose à travers ce texte et j'aimerais que vous y réfléchissiez afin que vous ne soyez pas surpris, que vous ne soyez pas surpris quand la fin de votre vie viendra. Et la fin de notre vie, on ne sait jamais quand elle vient. Je vous ai déjà mentionné l'histoire de ce rabbin qui disait aux personnes avec qui il discutait « Ah, prépare-toi à rencontrer Dieu la veille de ta mort. Prépare-toi à rencontrer Dieu, à mettre en ordre ta vie la veille de ta mort. » Et les gens, ils venaient le voir, le rabbin, ils lui disaient « Mais c'est compliqué ton conseil, on ne sait jamais, on ne sait pas comment on va mourir. Dans ma maison, là où on est, à la Bretagne, on est une maison avec un mur mitoyen, j'ai 40 ans, il y a un monsieur qui avait 40 ans de l'autre côté de cette même maison, et il y a un an, vous savez ce qui lui est arrivé à ce monsieur ? Il a eu une attaque, une crise cardiaque. Du jour au lendemain, il est mort. Ça aurait pu être moi. Est-ce que dans une semaine, je serai encore vivant ? On ne sait pas. Est-ce que vous serez encore vivant dans une semaine ? Des fois, on se dit « Ah, moi, je suis trop jeune. » Et quand on est jeune, eh bien, on se dit « J'ai toute la vie devant moi. » Mais il y a des gens jeunes qui meurent, il y a des gens âgés qui meurent. On ne sait jamais. Donc, être prêt n'est pas une question à repousser en se disant « J'ai encore le temps. » Être prêt, c'est une question de tous les jours. Et comment se préparer ? L'amour est le point clé que vous retrouverez dans toute la Bible. Aimer Dieu, aimer notre prochain. Et ce n'est pas de la théorie, c'est du concret. Comment vous allez montrer votre amour pendant cette semaine ? Comment vous allez traduire cet amour pendant la semaine qui vient ? Comment est-ce que vous avez commencé déjà à avancer dans ce chemin ? Comment vous allez continuer ? Et pas seulement dans la semaine prochaine, mais comment dans votre vie, vous allez manifester de l'amour envers votre prochain ? Prenons un temps de prière et je vous invite à méditer sur cela et à prier afin que vous puissiez vraiment dire « Oui, je tiendrai devant Dieu. » Il y a vraiment, dans ma vie, beaucoup de choses qui sont faites par amour. Ce n'est pas moi qui ai le centre d'abord, c'est pour servir les autres que je suis là. Prions ensemble. Seigneur Jésus-Christ, cette parabole, cette histoire, qui est plus qu'une parabole, ce jugement, n'est pas facile. Aujourd'hui même, tu peux nous rappeler à toi. On se croit solide et notre cœur lâche d'un seul coup, ou il y a une rupture d'anévrisme dans notre cerveau et en quelques heures, notre corps perd vie et nous serons ensuite jugés. ou bien tu peux revenir n'importe quel jour, comme tu nous l'as enseigné à travers les chapitres qu'on a médités ensemble. Apprends-nous à être prêts, Seigneur, à aimer notre prochain, à aimer nos frères et sœurs. Je te prie que tu bénisses mes frères et sœurs ici présents, que tu les bénisses pour les marques d'amour qu'ils ont pu manifester envers leurs petits frères et sœurs en toi pendant cette semaine, et que tu les aides à voir comment, pendant les semaines qui viennent, ils pourraient avancer dans cette direction, afin de porter ton fruit, afin de mettre en pratique les talents que tu leur as donnés, pour aimer prendre soin. Est-ce que ça sera d'aller dans des prisons? Est-ce que ça sera d'apporter de l'eau? Est-ce que ça sera de donner à manger? Est-ce que ça sera d'écouter? Est-ce que ça sera de visiter? Oh Seigneur, toi tu le sais. Montre-nous, Seigneur, à quoi tu nous appelles en cette semaine, dans les prochaines semaines, afin que nous soyons avec les brebis, les bénis de ton Père, et que nous puissions entrer dans le royaume préparé depuis la fondation du monde, Seigneur. Nous t'offrons ce temps, cette petite minute, en préparation d'une méditation pour cette semaine et pour plus longtemps, sur comment t'aimer, comment aimer dans ce monde, Seigneur. Guide-nous, enseigne-nous, Maître. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ta parole. Merci pour tes enseignements. Paul nous dit que nous sommes sauvés par la foi et non par les œuvres. C'est vrai. Et juste après, dans l'épître aux Éphésiens, il nous dit pour pouvoir mettre en pratique les œuvres que tu as préparées d'avance pour nous. Nous voulons par la foi, Seigneur, faire ces œuvres, non pas parce que ces œuvres, ces actions nous sauvent, mais parce qu'elles sont une marque du fait que nous t'avons accueilli comme Seigneur et que nous voulons t'aimer et te montrer notre amour envers toi, notre foi, à travers notre amour pour notre prochain, en particulier nos frères et sœurs dans la foi, dans ce monde, Seigneur Jésus-Christ. Amen.